les papous dans la tête.
Bonjour, les papous, de 12h50 à 13h58, la récré littéraire à retrouver en podcast sur franceculture.fr. Un numéro des papous très en rime et nature, avec des lettres et des brouillons, une brouette et la culture, vu par Jacques Vallée et Lucas Fournier.
Pour Littré, la culture, c'est cultiver la terre, la glaise, le sillon, ni Boileau ni Voltaire. Bien sûr, c'est pastoral, il est bon de faner, heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Mais le dos des glaneuses, ce n'est pas du courbé.
Et puis, une supposition à la Delbourg et des acrobaties homophoniques pour en venir à quand un papou lie un autre papou, le papou Serge Joncourt. Et pour finir, les Bourrimés, Éval Massy, Jean-Bernard Pouy. Et leur critique du jour, Jérôme Clément et Jacques Jouet pour le journal de la Biocop du coin.
Éval Massy le dit mieux que moi à la fin de son poème, je n'invente rien. Le poème intitulé « L'école écolo ». Nul n'oppose culture et nature, elles sont ex aequo. C'est magnifique, vous avez écrit ça pour nous.
Où que vous soyez, quoi que vous fassiez en nous écoutant, Françoise Trossard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou. Merci de votre fidélité. Et bienvenue au nouveau à l'écoute, la rentrée toujours si excitante, la rentrée accompagnée du clin d'œil des impôts, par ici le tiers, par ici les locaux, des chèques à signer, des virements pour revirement de situation. Jacques Jouet est écrivain, alors quand il se frotte à la gestion du quotidien, il a tendance à passer par l'écrit au lieu de prendre son smartphone comme tout le monde. Et comme il soigne ses missives, il rédige d'abord un brouillon. Du brouillon à la lettre, deux états d'une même pensée. Jacques Jouet, vous écrivez sous pseudonyme ou c'est vous ?
C'est moi qui écris. Ah oui ? J'écris à mon banquier. Ah, bah ça m'arrive pas très souvent.
Qui est un banquier, toi ?
Mais une fois de temps en temps, ça fait pas de mal.
Parce qu'il vaut mieux que vous n'alliez pas le voir directement, c'est ça ?
Ah, je l'ai vu, mais je préfère lui écrire après le rendez-vous.
Ouais. Et alors, vous nous lisez d'abord la lettre ou le brouillon ?
Oh, je vais vous dire d'abord, peut-être vous lire d'abord la lettre.
Oui.
Parce que le brouillon, je vais montrer que ça reste entre nous. Alors,
D'accord.
Très cher monsieur, en réponse à votre honoré du 12 qui me faisait remarquer en bonne justice que mon compte courant était un peu essoufflé, c'est-à-dire dans le rouge... J'ai l'honneur de vous demander respectueusement un petit coup de pouce. Vous savez ce que c'est qu'une famille, monsieur, j'ai 7 enfants. Je suis 2 fois veuf, j'ai une mère et 2 belles-mères à charge. La santé de 3 de mes fils nécessite les soins dispendieux que toute maladie encore mal connue exige. Mes filles ne sont pas encore mariées, c'est en bonne voie, merci. L'une d'elles, Cunégonde, est quasi fiancée avec un employé de votre banque dans ses succursales de Montargis. En attendant, je paye évidemment ses études commerciales. Je dois en outre m'occuper de cas sociaux dans mon escalier, dont qui plus est, les nez de marche sont à refaire. De mon immeuble, un ravalement sur rue est malheureusement imminent. La période est difficile, vous savez que j'ai un bon emploi, tellement bon que pour le conserver, je suis amené à effectuer 2 heures hebdomadaires de plus pour le même salaire. Je le fais sans rechigner. Vous voyez que ce n'est pas un irresponsable assisté qui vous écrit, aujourd'hui, respectueusement. Un banquier, au fond, pour un homme d'aujourd'hui, est une sorte de conseiller incomparable. J'irais jusqu'à dire un directeur de conscience, un supérieur, un ami. C'est lui et lui seul qui, à n'en pas douter, dans la terrible complexité du monde moderne, dispose de tous les éléments d'analyse et peut seul éclairer le citoyen de base qui n'a pas les moyens d'y comprendre quoi que ce soit. On ne peut pas se passer de vous. C'est donc à votre compréhension, à votre hauteur de vue que je m'adresse aujourd'hui. Mon compte courant est déficitaire, je ne vais pas le nier. Mes 2 comptes épargne sont vides et je ne sais pas comment faire pour les réapprovisionner. Tout ira mieux à partir de novembre, si j'en crois le diagnostic de la faculté quant à l'état de l'une de mes 2 belles-mères qui possède un appartement à Juan-les-Pins et n'a d'autre héritier que moi. C'est pourquoi, cher monsieur, je me permets de solliciter de votre part un crédit exceptionnel au taux que vous jugerez bon. Je vous fais toute confiance, c'est rassurant de savoir que l'on peut faire face à une dépense importante tout en gardant la maîtrise de son budget, n'est-ce pas ? Dans l'espoir que cette demande pressante sera trouvée dans votre cœur et votre coffre le meilleur accueil, je vous prie d'agréer, cher monsieur, l'expression de ma confiance la plus ferme.
Oh, c'est une lettre magnifique. Moi, si j'étais banquière, je vous répondrais tout de suite oui, bien sûr.
Bien, mais je note votre réponse.
Oui.
Mais à quel taux ?
Ah, taux zéro en ce moment, ou 0,2, généreux. Et alors, vous aviez écrit un brouillon avant.
Oui, j'avais écrit un brouillon, je voulais le jeter. Ouais. Et vous avez insisté, donc je ne l'ai pas jeté. Monsieur, mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance.
Oui, d'accord.
Mais pour qui vous prenez-vous? Savez-vous seulement ce que c'est qu'une famille, monsieur? Moi, j'ai 14 enfants. J'ai dû subir 4 veuvages et un quintuple pontage coronarien. J'ai un père paralysé, une mère Alzheimer et 3 belles-mères à charge. La santé de tous mes enfants, sans exception, est précaire. Je ne vous fais pas le détail, j'ai aussi adopté les jumeaux de ma sœur morte trop tôt. Vous pensez sûrement que je n'ai pas vocation à accueillir toute la misère du monde. Et qui le fera? Mon pavillon de banlieue, est-ce que je ne dois pas le maintenir en bonne apparence? Vous me dites que je ne travaille pas assez, que je n'ai pas d'ambition, que je dois marcher sur les pieds de mes collègues parce que c'est ainsi que marchent les sociétés dynamiques. Mais je ne l'entends pas de cette oreille, moi, figurez-vous. Et je n'ai nullement besoin de vos conseils sur la façon dont je veux mener mon existence. J'en ai ma claque, moi, de travailler comme un forçat à fabriquer des produits inutiles pour un demi-point de croissance. Qu'est-ce qui vous permet de me dire dans votre bureau, avec votre petit air condescendant, « Ah, ça va pas être possible. On va pas être copains tous les deux. » Et puis quoi encore? Qui vous a fait roi? Quel est le consensus populaire qui vous a désigné pour critiquer mes dépenses? Vous n'êtes pas assisté, vous, comme banque? Vous n'en faites pas, vous, des opérations toxiques? Oh, et puis assez parlé comme ça. Il est pire sourd que celui qui ne peut pas entendre. Tout est fini entre nous. Je vais me passer de vos services. Je me dirige vers une banque solidaire, s'il en existe. Je suis en train d'étudier la question. Il y a une loi sur la mobilité bancaire. Alors ne tentez pas de freiner la reddition de mes comptes. Monsieur, je ne vous salue pas.
Ça va marcher, oui.
Je crois que Rigardo Mosner vous emprunterait volontiers les deux lettres. Il a un problème aussi.
Une pour chaque occasion.
Mais curieusement, moi je pense que le brouillon est sans doute plus efficace que la lettre envoyée.
C'est possible.
En tout cas, ça fera une réaction.
On vous conseille d'envoyer les deux. Mais peut-être à deux banques différentes. Vous n'avez qu'un compte en banque.
Ah non, j'en ai plus. Vous avez raison, je vais faire 2 tentatives.
Oui, absolument.
J'ai fait les prêts, sinon un taux très convenable.
Petit rappel à noter sur vos agendas. Vive la sociale. Le premier rendez-vous en public de la saison pour nos papous dans la tête aura lieu, comme les suivants, au studio 105 de la Maison de la Radio. Et c'est le vendredi 30 septembre, de 20h à 22h30. Sur la scène, à mes côtés, prêt à toutes les facéties pour vous faire sourire et même à écrire sur place devant vous, Lucas Fournier, Patrice Caumont, Eva Almassy, Hervé Le Tellier, Patrick Beignet, Jeanne Carillon, Patrice Delbourg, Patrice Minet. Et pour nous accompagner en musique, l'ami Pablo Gignoli et son bandoneon, l'entrée, elle est gratuite. La réservation indispensable, alors encore quelques places, précipitez-vous pour la résa, direction le site maisondelaradio.fr. Vous cliquez sur le calendrier à la date du 30 septembre. Et vous vous enregistrez.
Maman, t'as réservé pour les papous?
En piste pour l'entrée de leur définition versifiée dans notre petit rimailleur illustré, Lucas Fournier et Jacques Vallée, chacun suivi de près par son contrôleur, Eva Almassy pour Jacques, Gérard Mordia pour Lucas. Avant d'admettre une définition dans notre dico en vers, il est bon en effet de vérifier que tous les sens y sont traités, même si les rêveries proposées sont aussi exercices de subjectivité, c'est le plaisir de ce jeu d'écriture. Lucas Fournier et Jacques Vallée ont eu le choix de leur forme poétique et même des mots à traiter, très révélateurs de la personnalité de chacun, le choix des mots. À vous l'honneur, Lucas, vous avez choisi un certain mot parmi les infinies possibilités du dictionnaire.
J'ai choisi culture, évidemment, puisque...
France Culture.
Nous y sommes,
nous y sommes, oui, voilà. Et nous y baignons.
Nous y baignons, mais...
Et c'est un mot, alors oui, vous avez 5 pages de définition.
C'est un mot un peu exaspérant, quand même.
Gérard Mordia, tournez les pages de notre dico de référence pour trouver la culture.
Voilà.
Il y a combien de colonnes ?
Non, c'est pas si long que ça, finalement. Non. Ça fait deux paragraphes, c'est pas très long, quoi.
Et c'est alors, précédé ce qui est, de quoi et suivi de quoi ?
Culturalisme, et puis c'est suivi de culturel. Mais plus intéressant, c'est que sur la page de gauche, il y a culte et culotte. Voilà, tout ça, ça fait un environnement
je
plus sympathique.
Je vois pas ce qu'il y a de rigolo.
Mais c'est plus sympathique, voilà, c'est plus sympathique.
Alors la culture, elle fait un peu peur aussi.
Eh bien la culture n'est pas ce que vous pensez, Françoise, justement. Je voudrais m'adresser... Oh là, les cultureux, les cuistres, les pédants, les suppôts du savoir, les fats, les faux sachants dont s'enfle le melon d'expos, de galeries, de rubriques idées, de quincailleries, de débats sociétaux, vous qui ingurgitez des kits intellectuels, du savoir au kilo, ainsi qu'un vieux navet qui viendrait se jeter sur de l'engrais fécond pour se faire plus gros... Voici ce mot, la panacée universelle dont sans fin se repaissent vos petites cervelles. Oui, voici la culture que vous dévotement adorez sans penser comme font pieusement les laboureurs le soir à l'heure de l'Angélus qu'on voit sur ce tableau qu'aime le populus. La culture, c'est Millet et non Jason Pollock. La culture est rustique, rupestre et limousine, on y sent la charrue. Les bœufs, les joues, le soc, et pas les suppléments glacés des magazines. Le bouillon de culture est soupe de légumes, et le chant lexical au purin, on le fume. Pour Littré, la culture, c'est cultiver la terre, la glaise, le sillon, ni Boileau ni Voltaire. Bien sûr, c'est pastoral, il est bon de faner, heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Mais le dos des glaneuses, ce n'est pas du courbé. En second, vous direz, on doit dire deuxième, puisqu'il en sera d'autres. Ouais. Je réponds que Bossuet place avec élégance second avant troisième. Donc en second, culture est un champ cultivé. Gustave Caillebotte, au parquet lessivé, n'est pas dans la culture, mais dans l'art ménager. Songez que la culture possède sa maison, mais que l'agriculture, ça va vous enrager, se plaît en son salon et à sa propre chambre.
Oui.
Celui qui sait pourquoi gagne un prix novembre. Il n'est pas de culture sans une agriculture. Vos livres, votre science, votre littérature n'y pourront rien. C'est dans le dictionnaire culture, c'est en trois, selon Émile Littré, un type pas péquenot et plutôt fin lettré, l'espèce végétale, parfois extraordinaire, que l'on y fait pousser avec ou sans épis. Du sorgho, pas d'hugo et pas d'olivier pie. Au point 4. Et culture, l'ensemble des techniques qui permet d'élever les espèces et les plantes. La conchyliculture concerne les berniques et les mollusques conchifères que succédantes. Enfin, vous l'attendiez, il y a la culture. C'est heureux, la culture est toujours féminine. Qu'on trépanne une femme et puis qu'on l'examine. Cultivons son jardin et aimons sa nature. N'ouvrons pas le débat de l'acquis et l'inné. On dit à la campagne, sagesse des aînés, la terre trop cultivée cesse d'être fertile.
D'où la notion de jachère.
Oui. Laissez votre esprit en jachère et laissez-le rêver.
Voilà. Très très bien.
La culture est facile et l'art est difficile.
Alors il a fait un joli tour de culture.
Oui, ça pourrait être son cours inaugural au Collège de France.
Oui.
Et il y a absolument tout ce qu'il faut. Il a bien vu les trois points importants. Donc l'action de cultiver la terre, ça c'est un des premiers points, évidemment. Le développement de certaines facultés de l'esprit, hein, les exercices intellectuels, et puis l'ensemble de ces aspects intellectuels propres à une civilisation ou une nation. Donc ce qui est très intéressant, c'est effectivement cette gémellité entre la culture côté agricole et du côté intellectuel. La terre et l'esprit. Et oui. Je crois qu'il y a ça...
Il fait un cours, lui.
Oui, lui aussi, oui. Oui, oui,
bah, forcément, je vous ai... À la suite...
Lui, c'est le professeur qui va...
Non, je pensais qu'il allait parler de culture physique, parce que...
Oui, ça a manqué un
omis,
petit peu,
mais...
oui.
Oui, mais c'est bien, parce que la culture intellectuelle est aussi une culture physique. Non, c'était très bien, et je pense que vous pourrez revenir faire une deuxième époque...
Une deuxième saison, oui.
Sur la culture.
Est-ce qu'il y a des jolies citations, des jolies ou des fortes citations?
En cherchant bien, je n'en trouve aucune.
Non, c'est pas possible. Alors, des vraies fausses citations sur le mot culture, Eva Almessi.
Encore la mienne est anonyme. Je l'ai attrapée dans un dialogue de comptoir, oui, dans un café. France Culture, n'est-ce pas un pléonasme? Ça dépend.
Ah,
c'est
mal,
presque une aporie.
Oui, oui, absolument. Jacques Vallée, vous avez choisi un mot pour nous.
La brouette.
Ah, ça ne nous étonne pas.
Pourquoi ça vous fait rire?
C'est une blague de garçon, ça.
Ah voilà, il me semble.
Oui, oui, moi, je n'ai pas du tout cet esprit-là. Pour moi, c'est très affectif, c'est la brouette.
Ah ben, bah, ça peut être affectif aussi.
Vous avez rougi, ça n'a rien à voir avec... Jamais je,
c'est pas
je
érotique, suis,
non,
c'est pas Kama Sutra.
Je suis à milieu de penser des choses comme ça.
Moi, en tout cas, c'est Eva Almessi qui s'occupe de votre brouette.
Vous avez tourné les pages.
Mais qu'est-ce que c'est une tâche facile? Il n'y a que 6 lignes.
Oh, mais alors, vous êtes gâtés.
Ben donc, il y a une nouvelle page à écrire.
Absolument, absolument, parce qu'il a fait probablement des digressions sur la brouette. C'est un éloge de la brouette.
Il y a beaucoup de choses personnelles dedans.
Ah bon? La brouette de Jacques Vallée, il me semblait bien.
C'est aussi un peu technique, parce qu'il faut expliquer
comment ça fonctionne. C'est technique comme position.
Parfait. J'ai fait des distiques très chers à Apollinaire. Des années de Sandrin en distique. La brouette.
Oui.
Je me souviens, la brouette du jardinier était chargée de fleurs ou portée du fumier. L'instrument est de bois et verni par la pluie, composé de deux pieds sur lesquels il s'appuie, de deux bras et poignets qui servent de levier et d'une roue facile à suivre les sentiers. Je me souviens, la brouette du jardinier était chargée de fleurs ou portée du fumier. J'entends encore le pas merveilleux de cet homme qui poussait devant lui une charge économe. J'entends encore le bois qui gémit en roulant. Je revois le plateau qui semblait vacillant. Et me souviens d'un temps où les enfants surpris y étaient entassés pour courir aux abris. Mais je ne veux garder qu'une chère silhouette emportant du soleil dans sa simple brouette. L'instrument est de bois et verni par la pluie, composé de deux pieds sur lesquels il s'appuie, l'inventeur serait un certain Blaise Pascal. Elle part aujourd'hui le palais idéal de Cheval, le facteur, qui, après ses tournées, retournait ramasser les pierres repérées. La brouette est au cœur de sa maçonnerie, avec cet humble message à ma seule amie. Je ne veux rien savoir de cette autre brouette, cette chaise à porteur qu'on nomme vinaigrette. Ni ne croit que le diable et le sac à roulettes ne feront oublier notre vieille brouette. Elle roule toujours, peinte en vert dans ma tête, et je ne veux garder que sa sage silhouette.
C'est plein d'affection, de tendresse. C'est joli. On dirait, on croirait entendre Cueco dans les dialogues avec son jardinier. C'est vrai? C'est
entre
hommage.
Entre Apollinaire et Francis James.
Exactement, un peu, oui. Exactement.
Oui. Avec un poil quand même de Francis Carco.
Ah, qui dit mieux, Jacques Jouet?
Un petit poil aussi du catalogue Manu France.
Alors, quelque chose à ajouter, Val Massy?
Mais à ajouter, c'est qu'il y avait tout, même la vinaigrette, alors que tout doucement, je suis allée jusqu'à la fin presque du dictionnaire pour contrôler la vinaigrette, et ça y était, la petite chaise à porteur. Sinon, de la brouette elle-même, il n'y a pas de citation dans le dictionnaire, mais la définition est assez joliment tournée. C'est donc un petit véhicule qui sert à transporter des fardeaux à bras d'homme.
Mais cette attirance pour la brouette
qui sert à transporter des fardeaux à bras d'hommes. En plus, c'est un alexandrin dans le dictionnaire, c'est formidable.
Ouais. C'est des trucs d'enfance, ça. Je regardais beaucoup les brouettes, je m'asseyais dessus.
Et vous aviez un petit jardin dans la Meuse?
Non, j'avais des grands jardins.
Des grands jardins au plan. Donc des grosses brouettes.
Un petit vélo dans la tête et un petit jardin dans la Meuse.
Mais Pascal, c'est une légende, ça, c'est pas du tout Pascal.
Oui, mais c'est une légende. Il aurait inventé plutôt la vinaigrette.
Jacques Jouet, vous avez une fausse citation. Est-ce qu'il y avait des vraies citations dans le dictionnaire? Pauvreté du dictionnaire, oui.
Et moi, j'ai trouvé une mention de la brouette dans le Tour de France par deux enfants.
Un paysan parle aux enfants et leur dit ceci. Il ne faut pas confondre le brou de noix avec la brouette de noisette.
Ben, c'est très instructif, le Tour de France de deux enfants.
Je pense que le poème de Jacques pourrait se trouver dans le Tour de France.
C'est par vrai, deux enfants, c'est vrai. Alors, une fausse par Lucas Fournier.
Une citation de la Vénus de Milo. Celui qui a eu l'idée de mettre une roue à la brouette était ingénieux, mais celui qui a eu l'idée de lui donner des bras était un génie.
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave et j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit, je l'exerce en travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nuit intégrale. Après striptease, et dans la salle je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homo, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes. Dans un quelconque bar tabac, et là, on s'en donne à cœur joie, et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez, on les lapide. Mais on fait ça avec humour, enrobé dans des calembours, mouillé d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablé, marcher ondule. Saint-Jean, ce qu'ils croient être nous, et se couvrent les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi, les lazis, les colibets me laisse froid, puisque c'est vrai, je suis un homme, oh comme ils disent.
Comme ils disent, Aznavour, version Gérard Darmon.
Les papous, c'est aussi dans ma tête et sur France Culture.
Absolument, Jeanne. Fut-il habile, charmant, le jeu des suppositions. Et quand Patrice Delbourg s'y colle, on peut s'attendre, outre au calembour final, qui bien sûr est dans la règle du jeu, à un festival de calembours. Vous avez une petite histoire à raconter, Patrice. Vous avez choisi son destinataire parmi Éval Massy, Jacques Vallée, Lucas, il y a beaucoup de papous à la table du dimanche. Alors qui ?
Éva.
Éva, oh, heureuse élue.
Éva.
Très heureuse.
Ma chère Éva, suppose que tu t'appelles Maury.
Maury.
Oui, Maury, comme le nom de jeune fille de ma chère tante de la souterraine du côté maternel, qui m'a élevé si gentiment de 7 à 15 ans dans une petite métairie au bord de la Creuse. Oh. Thérèse était son prénom, Thérèse Maury. C'était une femme austère qui était toujours vêtue de sombre et qui mettait des aiguilles dans ses souliers pour avoir l'air pointu. Elle faisait le clafoutis à merveille, connaissait toutes les préfectures et sous-préfectures des départements et souffrait de terribles migraines en fougère. Thérèse Maury, ma tante, ma marraine, ne s'esclaffait guère. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'avait pas avalé un clown. Mais quand ça lui arrivait, j'applaudissais l'événement. Maury, tu ris ? Je te salue, tante.
Oui.
Avec son mari, mon oncle Gaston, mon parrain donc, les rapports étaient volcaniques. Un couple sous chicotin, un tandem au micro-ondes. Bref, ça ne gazait guère entre eux, comme on dit dans le métro à Tokyo. On voit le Maury tôt, même quand il se fait tard. Mon oncle Gaston s'en donnait à cœur joie. Mais ma pauvre tante Thérèse n'avait point le goût du calembour, ni même d'aucune tournure d'esprit. Trois choses la retenaient dans l'existence, la météo, le tricot et donc le clafoutis, comme dit précédemment. Peu charitable, ce n'était pas son genre. L'oncle Gaston en profitait et en rajoutait dans l'homonymie, la calembredaine et l'à peu près en guise de turlupinade. Plus il faisait le malin, chargeait la barque dans le jeu de mots, plus il jonglait avec le lexique. « Tais-toi, tu lexiques » disais-je, modestement. Plus ma marraine, Thérèse Maury, sanglotait, disait qu'elle ne comprenait rien à ses facéties et qu'on se moquait d'elle. Un jour, il nous convia sa femme, c'est-à-dire ma tante, vous l'avez compris, et moi, à un déjeuner gastronomique dans une charmante auberge des Yvelines. J'y vis bien un début de fourberie, mais je ne compris qu'au dessert. Nous irons visiter par là même la demeure de Ravel, Maurice Ravel, dit-il d'un air gourmand. Le repas fut maussade, les plats sans sauce, la serveuse pas sans sas, et il pleuvait sans cesse. Mon oncle et ma tante ne cessèrent de s'asticoter pendant tout le repas. À la fin, mon oncle Gaston se leva d'un coup, brandit son verre vers les lambris et lança en fixant pas gentiment ma tante, « Décidément, c'est pas mon fort, la Maury. »
C'est pas mon fort, la Maury. C'était un festival, Patrice Delbourg. Il y en avait plein. J'ai beaucoup aimé la toute première.
C'est vrai, vous l'avez préférée.
C'était Salvutante. Laquelle était votre préférée, Eva?
J'aime bien mon fort, la Maury, puisque j'y fréquente les vides-greniers.
C'est vrai.
Et ça me rappelle donc de beaux souvenirs.
Il y a des brocantes à mon fort, la Maury.
Oui.
La maison de Ravel est intéressante parce qu'on y rentre en baissant la tête parce qu'il était tout petit, Ravel, et sa maison est à sa taille.
Ah bon ?
Ouais.
Il y a plein de petits jouets, non ?
Oui, il y a plein de petits jouets.
Qui étaient tout petits aussi parce qu'ils étaient à sa taille.
Absolument, un petit piano, un petit solfège.
Je vais visiter alors la prochaine fois.
Un conseil plaisir. Si vous habitez Rouen ou sa région, ou si vous passez par là, ne manquez pas l'exposition rétrospective de Christian Zemer, un peintre qui a fait un bon bout de chemin avec nous au Papou, avant de migrer en Normandie jusqu'au 21 octobre, faculté de Mont-Saint-Aignan à Rouen, 40 toiles unies vers Citer. C'est le titre calembourgeois choisi par Christian, l'homme qui, comme l'écrivait François Caradec, à rebours de la plupart des peintres qui cherchent des titres à leurs tableaux, donne des tableaux à ces titres. Je lis. Les infos sur cette expo à retrouver à la page Vie du Club des Papous dans la tête sur franceculture.fr, une page qui a fait son retour. Il suffit de cliquer sur le lien dans le programme du jour. Et très doué pour les calembours homophoniques, Christian Zemer. 40 toiles universitaires, 40 toiles universitaires, l'homophonie est parfaite. Et on va jouer nous aussi, le clavecin bien trempé au jeu des homophonies approximatives. Et oui, elles seront approximatives les nôtres. Avec aujourd'hui un début imposé à Patrick Béni et Jacques Vallée, le titre d'un roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Votre histoire, Patrick, je crois qu'on est un peu dans une ambiance à la Gaston Leroux pour passer de ce titre à une chute homophonique ou presque.
Le Rouge et le Noir est un très mauvais roman. Voilà ce que Gustave Flaubert dit en substance à sa grande amie George Sand dans une célèbre lettre du 14 avril 1865. Pareil jugement n'est vraiment pas à l'honneur de l'auteur de Madame Bovary. George Sand était trop intelligente pour essayer de discuter avec Flaubert sur les qualités et les défauts du Rouge et le Noir. Elle savait bien que c'est pas un livre parfait, parfait au sens où pouvait l'être Madame Bovary. Mais elle savait aussi qu'il était inutile de discuter de ce genre de choses avec Flaubert. Plusieurs mois plus tard, cependant, dans sa correspondance, elle évoque le roman de Stendhal, mais d'une manière bien imprévue. Était-ce pour faire la leçon à Flaubert ? Vous allez en juger par vous-même. Le 28 novembre donc de cette même année 1865, et toujours à Flaubert, Elle raconta une histoire tout à fait invraisemblable. Le rouge et noir était bien à sa place dans la bibliothèque de ma chambre à coucher quand j'ai éteint ma chandelle et que je me suis endormi. Quand je me suis réveillé ce matin, le livre était sur ma table de chevet. N'est-ce pas incroyable ? Je suis certaine que nul être humain n'a pu pénétrer dans la chambre et changer le livre de place, car ces temps-ci, je ferme ma porte à clé la nuit par peur des souris. Donc, le livre est venu tout seul de la bibliothèque à ma table de chevet, ce qui représente au moins un espace de 3 mètres. J'y vois, conclut George Sand, une nouvelle preuve que c'est un livre génial. Flaubert dut s'incliner et reconnaître que seul un chef-d'œuvre peut parcourir tout seul 3 mètres pendant la nuit, surtout dans le noir. Désormais, il affirma partout l'éminente supériorité de Stendhal parmi les romanciers du siècle. Il ne semble jamais s'être douté que George Sand lui avait menti et que le rouge et le noir ne faisait pas ce petit voyage dans les ténèbres. Elle prenait le livre et le bougeait le soir.
Oh, la tricheuse ! Le rouge et le noir.
Elle le bougeait le soir.
Ben oui, mais c'est les femmes. Hein.
Mais on retrouve le mystère de la chambre close.
Absolument, oui. Absolument.
Et oui. C'est le fantôme, c'est le même qui s'est déplacé.
C'est, ben, c'est le même fantôme.
Et on va voir si Jacques Vallée a fait de même, une histoire de lieu clos.
Non, pas tout à fait.
Mais vous êtes toujours si différent de tout le monde, Jacques.
Ben oui.
C'est un poème ?
Non, c'est non une histoire. Une histoire avec... un peu captivante, un peu haletante.
Qui
vous tiendra en haleine, j'espère.
La barre est haute, hein.
Jusqu'au bout.
On en a tellement envie. Allez.
Le rouge et le noir, les deux couleurs des anarchistes, celle de la CNT dont le siège social à Paris est rue des Vignoles, je les aperçois de ma fenêtre. Certains jours, ils organisent des fêtes, entonnent des chants révolutionnaires. Mon ami Manuel est l'un d'eux. Je n'ai jamais su précisément où il habitait. Lui rendre visite dans une de ses tanières est rarissime. Une fois, il m'a invité à boire un verre dans une chambre de bonne près du marché aux puces. Invitation exceptionnelle. Peut-être pour se procurer un alibi, pour des motifs obscurs. Je n'ai pas cherché à savoir. Il n'avait pas donné de nouvelles depuis des mois. Il ne fréquentait plus ses bars habituels. Personne n'avait entendu parler de lui. Sa disparition totale laissait supposer qu'il avait été se terrer en province. Quand, un soir, il téléphona chez moi.
Mystère.
Je vois que ça vous
captive. Mais oui, on est captivé, Jacques.
Il me demanda de lui apporter un livre. Il m'indiqua une adresse dans un quartier du nord de la capitale à mauvaise réputation. « Ma combuse est au fond d'une ruelle, dit-il, dans un terrain vague. Tu verras, c'est rudimentaire. » Il ne me fournit pas d'autres explications. Il raccrocha sans même me laisser le temps de trouver un prétexte pour échapper à cette convocation. Cette fois, l'expédition semblait aventureuse. Avant de partir, ma femme avait ironisé « Tâche de ne pas te faire assassiner !»
Les drôles
Ironique.
Le coin, en effet, n'a rien de reluisant. Ce sont des bâtisses délabrées avec une population interlope, des squats, des friches. Il fait tiède, l'air est plein d'étranges odeurs. La ruelle qu'il m'a indiquée n'est pas facile à trouver, d'autant que le quartier reste plongé dans l'obscurité. Je découvre enfin les 3 boyaux au pavé disjoints. Je m'avance avec une certaine appréhension. Sur un côté, des grilles bordent le jardin, avec un immense magnolia devant un pavillon coquet éclairé par la porte d'entrée restée ouverte. Quelle n'est pas ma surprise, le bouge est un manoir.
Oh, mais la divine surprise! Le rouge et le noir, le bouge.
Est un manoir.
Non, mais ça partait pas très bien quand même, on était dans l'angoisse. Qu'est-ce que vous
c'est
avez
Balzac,
pensé?
C'est balzacien, là.
Oui.
C'est
absolument.
Les nuits de Paris et les découvertes dans les sentines, comme ça.
Oui.
Et le rouge et le noir, moi j'aime beaucoup l'explication des anarchistes. Pourquoi leur drapeau est rouge et noir ? Rouge parce que le sang humain est rouge, noir parce que l'esprit est sombre.
Ah, très joli.
Oui, monsieur, j'ai faim.
Alors, nous allons acheter quelque chose de bon. Dame, kaufen wir etwas Schönes. Dann kaufen wir etwas Schönes.
Elle est poursuivie par cette nostalgie. Et je l'envie tout le jour. Aspire à l'amour. Elle chante à la lune, par froid avec un rhume, une ville, un océan, au charme désarmant. Elle claquette sur les pavés, les collants déchirés, ses lèvres touchent la pluie. Ses yeux brillent dans la nuit. Sur le boulevard des larmes, les sirènes des gendarmes, une dernière cigarette, une toute dernière conquête. Après la petite mort, elle rêve des baisers qu'elle va encore voler. Elle est poursuivie par cette nostalgie. À trois dans la baignoire, mais c'est une autre histoire.
De Clichy, Mardi Gras, Brass Band. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête. Au micro, Françoise Tressart. Et la bande des papous du jour à suivre, quand un papou lit un autre papou, et le jeu des bouts rimés, avec Eva Almassi, Jean-Bernard Puy, Jacques Jouet et Jérôme Clément, qui se penche sur le poème de Jean-Bernard.
C'est finalement ce rappel, avec ce vers sublime placé dans la bouche de Morand, « Je ne sais quoi répondre », qui nous fait retrouver le vrai Jean-Bernard Puy, ce poète exalté et mystérieux.
Eh oui, Jean-Bernard Puy et son mystère poétique à suivre tout à l'heure, après la chronique de Lucas Fournier, « Quand un papou lit un autre papou ». Écrivain le plus souvent, le papou publie régulièrement des livres et c'est l'occasion pour un autre papou de faire son portrait. Où il sera question aujourd'hui d'un roman d'amour et d'un homme très attachant. Comment se présente cette rentrée 2016, Lucas Fournier ?
Ah, mais formidablement bien. Parce que pour nous, ici au Papou, qui nous adonnons à ce vice impuni la lecture, il y a deux bonnes nouvelles pour la rentrée. La première, c'est que les hommes politiques se sont tous mis à écrire. Enfin, ou plutôt à publier des livres.
Oui. Ouais.
Et l'autre nouvelle, encore meilleure, est que les bons écrivains aussi. Et parmi eux, le truculent et déconcertant Serge Joncourt, qui nous livre une pépite, « Repose-toi sur moi » chez Flammarion. Alors, avec un slogan pareil, « Repose-toi sur moi » et connaissant un peu le personnage, je me suis dit « Je vote pour lui ». Je cherche ce cher Serge.
Je cherche ce
cher Serge. Là, je cherche un peu la difficulté. Donc, je le cherche parmi les candidats et il n'y est pas. Et pourtant, là, repose-toi sur moi. Mais c'est un programme politique épatant. Le repos du guerrier, l'éloge de la paresse, la paix intérieure. Ah, qu'il est doux de ne rien faire.
Quand tout s'agite autour de soi.
Et qu'on est avec un type qui assure. Et justement, avec Serge, tout est assuré. Alors, il assure bien sûr la conversation.
Joncourt parlerait à un chat dans la rue. De rien. Des arbres, des écrivains, des jambes des femmes, de Dieu. Aussi, oui. Il est féru de tout, faussement bourru, avec une érudition qu'il aura toujours le tact de vous cacher. Mais Serge, surtout, vous écoute, nous écoute, les yeux ouverts, en souriant. Voilà, c'est un être de grand feuillage. C'est pas un être, non, mais un
avec
charme.
Avec un H, non.
Non, un oui, charme, un charme. À l'ombre toujours bienveillante. Repose-toi sur moi. Oui, avec Serge, rien ne peut vous arriver, parce que c'est à lui que tout arrive, de toute façon. Il est le cousin de Mr. Bean, le grand frère du grand blond avec une chaussure noire, et le petit-fils de Jacques Tati avec le même regard qui attire l'incongru et la poésie. Le quotidien le plus banal se transforme en épopée burlesque et désemparée. Demandez-lui de vous raconter ce qui arrive lorsqu'il part acheter une paire de tennis ou une tranche de mortadelle. Vous aurez un récit baroque et rigolard, suspendu, hésitant sans cesse entre des silences à la Modiano et des fulgurances façon Lucchini, et qui vous tient 2 heures en haleine. Puis, quand ça a assez duré, il cesse de faire le candide ou le paumé, et zou, il règle le problème avec son arme de persuasion massive, la gentillesse, qui n'est jamais mièvre. Freud, que vous avez bien connu,
très très bien, oui,
a créé le concept de Unheimliche, das Unheimliche, l'inquiétante étrangeté. Eh bien, il y a chez Serge...
C'est pas facile à dire non plus,
non, hein, plus, il y a chez non Serge. Plus, mais en français plus qu'en allemand. Oui. Il y a chez Serge comme une rassurante étrangeté. Il aurait pu être Hagrid.
C'est qui ça?
Mais le gentil demi-géant d'Harry Potter qui vous accueille. Oui. Ou encore Jean-Pierre Rive.
Mais lui, je connais, c'est un rugbyman.
Casque d'or, capitaine de l'équipe de France. Un arbitre qui s'inquiétait de le voir continuer à jouer après qu'un crampon adverse lui avait méchamment entaillé le front, lui dit « Monsieur Rive, vous ne voulez pas sortir ?» Et Rive, la tête en sang, superbe et généreux, avait répondu « Sortir ? Mais pour aller où ?» Eh bien Serge, il est comme ça, il est dans la page, dans son livre, dans ses rêves, et peut-être qu'il ne sait pas où aller. Alors Serge, comme tous les grands costauds, n'est pas du genre à s'épancher au dehors. Il y a pudeur pour les braves, mais dans ses livres, il glisse la silhouette de ce petit garçon qu'il a été, sensible, solitaire, peut-être triste et tourmenté. Alors si je vous parle de Serge...
Oui, c'est pourquoi.
C'est qu'il ressemble un peu, beaucoup, passionnément à Ludovic, le héros de « Repose-toi sur moi », le livre dont je suis censé vous parler depuis le début.
Voilà, exactement. Mais vous nous faites un portrait exquis de Serge Joncourt.
Et lire un livre, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tourner la page. Ouais. Et avoir envie de tourner la page. Et à chaque chapitre de « Repose-toi sur moi », je me disais « Bon, j'en lis encore un et puis j'éteins ». Et puis non, et j'ai continué pour savoir ce qui allait arriver à ces deux héros, Ludovic et Aurore. Un homme et une femme, tellement dissemblables et comme perdus. On est dans un immeuble ambiance fenêtre sur cour d'Hitchcock, avec un peu les oiseaux aussi. Vous allez dire, bon, c'est d'avance comment ça finit.
Non, non, pas du tout.
Coup de foudre à Notting Hill, Love Story avec une happy end, mais vous avez raison. Et puis même, prenez Titanic. Le film, vous connaissiez la fin, et pourtant, vous vouliez savoir ce qui allait arriver. Et là, la fin de Serge, elle est indevinable. Alors Serge s'est emparé de 2 personnages désemparés, il les a réparés à sa façon. Les amoureux de Joncourt s'embrassent, c'est d'une volupté à faire rougir les putains de la rade, comme chante Louane, et avant Michel Sardou. Les amoureux de Joncourt, c'est toi et moi contre le monde entier, dans ce siècle bizarre où tout le monde se connecte et où personne ne se regarde. Repose-toi sur moi, c'est un roman où tout est inventé, mais où rien n'est faux. Alors les hommes politiques qui battent les campagnes et qui écrivent des livres devraient plutôt commencer par cela, lire. Lire ce livre pour comprendre ce qu'est la vie dans les villes tentaculaires et les campagnes hallucinées, pour comprendre ce qu'il y a dans la tête et le cœur des gens. Parce que mine de rien, Joncourt nous a écrit un nouveau tome de la comédie humaine. Il est notre Balzac. Oui, oui. Donc le livre s'appelle...
Repose-toi sur moi.
On le prend et on n'arrive plus à le reposer.
Et c'est publié chez Flammarion.
Des yeux qui font baisser les miennes, des rires qui se perdent sur ma bouche. Voilà le portrait sans retouche des femmes auxquelles j'appartiens. Quand je le prends dans mes bras, elle me parle en tout bas, je vois la vie en rose. Elles me disent de mots d'amour, de mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans ma cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Toi me l'as dit, le jouet pour la vie. Dès que je le aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. De nuit d'amour à un mourir, une grande bonheur qui prend sa place, les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux pour mon plaisir. Quand je le prends dans mes bras, elle me part tout bas, je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans ma cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Toi me l'as dit, le jour est bon. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui
trop beau. Sir Alice Girl, la vie en rose. Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête, les bourrimés, suivi de l'exercice critique. Quel que soit le choix poétique, alexandrin, octosyllabe, déca, quatrain, sonnet, l'important c'est le choix de la rime. Or, pour notre jeu, on supprime l'embarras du choix, puisque les rimes sont imposées par le hasard. Hervé Le Tellier, Jacques Jouet, Jérôme Clément et même Eva Almassy et Jean-Bernard Pouy, nos versificateurs du jour, ont écrit un certain nombre de mots sur des petits papiers disposés dans un chapeau, des mots qui riment deux à deux et si possible masculine avec masculine. Pareil pour les féminines, même si certains papous ne sont pas très rigoureux sur le sujet. C'est un jeu auquel vous étiez si nombreux à participer sur notre ancien site. Le seul endroit où vous pouvez poster vos poèmes est désormais sur le nouveau site, la rubrique commentaires sur notre page Vie du Club, page qui a fait son retour. Le lien est dans le corps du programme du jour. Je sais bien que vous ne vous sentez pas très à l'aise dans cette rubrique commentaires. Il faut s'inscrire, c'est compliqué, ça marche pas toujours. Mais avouez que c'est dommage d'être stoppé dans votre envie de jouer par ce détail technique. Alors essayez et on vous lira avec un infini plaisir. Les bourrimés, première partie. Dans mon chapeau, il y a des dizaines de mots. Oui, vous remuez bien, Eva, qui riment entre eux peut-être 60. Et il s'agit pour vous d'en tirer 20. Trois couples de mots pourront être refusés. Alors, je remue encore un petit peu. Je tends le chapeau à l'équipe Almassy Pouy. Honneur aux dames, Eva, à vous de tirer un premier papier.
Alors voilà, un petit papier, tout petit, écrit au crayon, Jacques Jouet, déblayé, festoyé.
C'est bien, vous prenez ?
Oui, bon, moi je prends tout.
Non. Ah oui, non, mais moi, toujours. Pas.
Toujours.
Alors, un deuxième mot. Adieu de Pardieu.
Adieu de Pardieu, c'est de qui
c'est... Ça, c'est de Hervé Le Tellier.
Ah oui, évidemment.
C'est ça ou adieu bah, Gary Cooper
mais... bah, ça va.
Oui, oui, moi je ça prends.
Va. Non, adieu de Pardieu rime mieux. Hein. Oui, ça je dirais bien. Même que c'est une rime parfaite. Bah, et adieu va. De Pardieu, mon Dieu, ça c'est va. Pas mal.
Mais oui, mon Dieu,
ça fait un texte.
Alors, déjà. Ça, c'est de moi. Oui. Course, source. Mais ça m'a inspiré au moment de les choisir et oui. Ça ne m'inspire plus du tout avec Adieu de Pardieu.
Ah, ça, c'est clair que ça ne marche pas très bien ensemble, quoique la course. Hein.
Et l'eau de source.
Et l'eau de source.
Oui, oui.
Jean de Florette et Manon des Sources.
Oui, mais il ne jouait pas dedans.
Ah, oui.
Ah, bah alors.
Alors, on prend quand non. Même course source.
Bah non, tu as refusé, maintenant, tu vas pas
j'ai
revenir.
J'ai refusé. Allez. Ah, oh, mais ça. C'est encore de moi, je suis désolée. Dulciné, calciné.
Il ouais, ne faut pas être désolée, vous avez travaillé.
Qu'est-ce
donc.
Qu'il y a Dulciné.
Dulciné, calciné.
Ah, très
oui,
bien.
Oui, magnifique. Oh,
c'est beau, ça.
Ah, oui, oui, oui.
De Jacques Jouet au crayon.
Oui.
Cormoran, Paul Morand.
Paul Morand, très bien.
C'est magnifique, ah, ça. Hein.
C'est fort.
Ça, c'est beau. Hein.
Ah, non, mais c'est un poète, Jacques Jouet, il a le sens de la rime. Hein.
Et il m'en manque. Un
encore
papier,
un,
non
oui.
Déjà, un texte où il y a Depardieu et Paul Morand.
Et là, c'est signé mon camarade, je crois. Crapahuté, charcuté.
Donc, c'est Monsieur Pouille lui-même. Crapahuté, charcuté. C'est bien, ça. Non
ah oui.
Allez, vous offrez le chapeau à Jean-Bernard Pouille.
Et je remets le chapeau.
À vous, sixième couple de rimes, Jean-Bernard Pouille. Ayez la main heureuse. Il manque des personnages un peu. Bon, il y a Depardieu, Paul Morand.
C'est pas les moindres.
Ce sont des vrais.
De moi-même, Esclandre, Calandre.
Et la calandre de la voiture. Hein. J'ai jamais très bien su ce que c'était.
En général, c'est ce qu'il y a devant.
C'est ce qu'il y a devant.
Oui.
Et moi, ça ne m'inspire pas.
Ça te plaît pas. Non. On prend un autre.
On refuse.
Cocktail à tel de Monsieur Le Tellier.
Ah, c'est le très beau sens de la rime d'Hervé Le Tellier. Bah on ne peut pas lui faire du chagrin tout le temps dans ce jeu.
Non,
si
non,
vous prenez cocktail à tel,
oui.
Ça fait masculine, féminine, enfin, non, à tel, une à tel.
Qu'on
met à la
oui,
jambe
a,
si on s'accale.
Mais au 21e siècle, on peut.
C'est assez transgenre en général.
Oui.
Cocktail à tel, d'accord, on prend. Ça vous fait rire, JB, c'est quoi
à l'avance. Cafard girophare, c'est bien ça.
C'est de
ça
vous.
Ça doit être Jérôme.
C'est Jérôme Clément. Ah bravo, oui, c'est bien. Cafard girophare.
Ouais, cafard girophare.
Vous avez pensé au cafard être cafardeux ou à l'animal ?
À l'animal.
Oui, mais je ne suis pas obligée de penser à la même chose.
Dans le sens qui vous plaît.
Glaucome et vélodrome.
Oh non. Ah non, moi j'en veux pas.
Non, glaucome.
C'est, bien, ça.
Non, c'est de vous ça.
Oui.
Non, j'en veux pas.
C'est jeté là. Hein.
Huitième couple de rimes. Glaucome, oui.
C'est vachement beau comme mot, glaucome.
Ah non, je trouve ça. Non, c'est comme globule.
Glaucome, on dirait un héros de l'Iliade un peu.
Ah bon.
Ah oui, ouais. Glaucos.
Hein, Glaucos, glaucome qui arrive venu avec son épée. Là.
Ouais.
Mordilla, gazouilla.
Mordilla, Gérard.
Gérard Mordilla. Mais Gazouilla, je ne sais pas ce que ça voulait dire.
Et Mordilla, vous ne connaissez pas. Bon,
c'est Mordilla, je ne sais pas. C'est un
subjonctif imparfait.
Il aurait fallu une Mordilla.
Oui,
vous
pouvez.
Alors qu'elle sont des mots communs, ce ne sont pas des noms propres.
Qu'est-ce que t'en penses, Eva ?
Ah, il Mordilla. Il lui Mordilla l'oreille.
Oui, c'est le verbe.
Ah, ce n'est pas Gérard Mordilla, c'est le verbe.
Oh, bon, ça c'est très bien. Dès qu'il vit le téton, il le lui Mordilla.
Voilà.
Dès qu'il vit,
c'est très bien.
Du mordillu, peut-être même.
Et des rechefs et le gazouilla.
Mais quel est l'autre alors ? Mordilla et.
Gazouilla.
Gazouilla, ben voilà.
Ce sont les verbes, bien sûr.
Vous les prenez ?
Mais on prend.
Ben, c'est pas un personnage. De toute façon, on a déjà Depardieu, on a Morand.
Il y a du monde, ouais.
Oui, il y a du monde déjà. Alors, après, neuvième couple de rimes.
Mexico ex aequo.
Très bien. C'est bien
beau.
Ça.
C'est du Gigi.
Ah, Jacques Jouet. Mexico ex aequo. C'est une chanson de Luis Mariano,
ben oui.
C'est ça.
Ex aequo.
C'est bon, là, on l'a, non ?
Et dernier couple de rimes, le dixième sera.
Culture, piqûre.
Culture, piqûre. Ur, c'est Jérôme.
C'est moi, oui.
C'est l'arrimant Ur. Alors, vous prenez, vous avez déjà beaucoup refusé, hein, cela dit. Mais
voilà, on prend.
Culture prenez piqûre,
pour
c'est
en
bien.
Finir avec le tirage.
Non, c'est bien.
Il me manque un couple.
Bon, Jean-Bernard Puy, vous nous faites le plaisir de relire ces couples magnifiques.
C'est une joie. Déblayé, festoyé. Adieu, Depardieu. Dulciné, calciné. Paul Morand, Cormoran. Crapahuté, charcuté. Cocktail, attel. Cafard, girofard. Mordilla, gazouilla. Mexico, ex-aequo. Et culture piqûre.
Bon, ce sont des couples très intéressants. Est-ce que, Jacques Jouy, s'il vous était arrivé ces mots, vous auriez su quoi en faire?
Ah oui.
Et lesquels vous auraient inspiré le plus?
Oh, je crois que je serais parti avec Dulciné.
Évidemment.
Oui, mais je ne vais pas trop les aider non plus.
Non, on les laisse travailler tranquillement. Oui. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, I'm all a quiver. What a mess you're making, the neighbors want to know. Now I'm always shaking, just like a flipper. Each morning I get up with the sun. I start a hopping, never stopping. To find at night, no work has been done. I know that wants to do the matter, but now you're doing wrong. When you start to patter, I'm so unhappy. Won't you take a day off, decide to run off somewhere far away off and make it snappy. Oh, how I long to be the girl I used to be. Fascinating rhythm, won't you stop picking on me.
Rival Massy, Jean-Bernard Puy, comment on se retrouve?
Quel plaisir.
Ah, oui.
Ça s'est bien passé, cette écriture?
Oui.
Bon. Bon, oui, je décèle un soupçon d'enthousiasme dans votre voix.
Ouais, ça s'est super bien passé.
Bon, on réécoute les mots, Eva Almassi.
Crapahuté, charcuté, cocktail, attel, adieu, Depardieu, cafard, girofard, déblayé, festoyé, dulciné, calciné, mordilla, gazouilla, Mexico, ex-aequo, culture, piqûre, Paul Morand, Cormoran.
Il y a un mot qui vous dérange?
Bah, piqûre me dérangeait beaucoup, j'aime pas ça, les piqûres.
Ah oui, donc c'était une difficulté de glisser la piqûre dans le poème.
Et... Je l'ai laissé pour la fin.
Ah bon? On va d'abord écouter Jean-Bernard Puy. Il y a un mot qui vous a plu plus que les autres, puisque votre théorie consiste à ne rien refuser, ça veut dire que vous aimez tout ou pas vraiment?
Non, non, je pense qu'il y a un mot. C'est Paul Morand.
Paul Morand, vous
oui,
aimez?
Que je déteste.
Ah oui, bon.
Là, ça m'a intéressé quand même.
D'accord.
Et alors, c'est un poème qui s'appelle Alliance française.
Oui.
Qui est tiré dans lequel s'appelle Nuit tropicale.
C'est l'Action française, moi.
Non, Alliance française.
Un hommage.
Un hommage à Jérôme Clément, alors.
Non, c'était avant. Paul Morand, il l'a pas connu, lui.
Ah bah oui.
C'est gentil de me dire ça.
Oui, oui, oui. Alexandrin.
Alexandrin, mais pas pépère. Mémère, ouais. Moi, je préfère Alexandra Mémère.
Et les rimes, elles sont ABBA, AABB.
Embrasser.
Embrasser, ABBA.
Je ne sais quoi répondre, s'exclama Paul Morand. Nous sommes au soleil et en plein Mexico. Et face à ce dilemme, nous sommes ex-aequo, gauches et impuissants comme des cormorans. Il répondait ainsi à ce cher Depardieu, qui était en ces lieux surtout pour festoyer. Parler de Cervantes, des clichés déblayés, hurler sa différence, au bon goût dire adieu. Les deux contradicteurs parlaient de Dulciné, la fiancée espagnole, et ça en plein cocktail. Leur cerveau embrumé, comme pris dans une attelle, n'était que poésie, pour le coup calciné. Il n'aurait pas fallu qu'ainsi le gazouilla, il aurait mieux choisi de se crapahuter, pour éviter ainsi de se faire charcuter, il aurait mieux valu qu'il se la mordillât. Et j'en ai marre. Et j'en ai marre, dit l'un, de toute cette culture. Don Quichotte, en fait, ça me fout le cafard. Le style tourne en vain, comme un vrai girofard. Tu as tort, conclut l'autre. Ce style est une piqûre.
Ah oui, ben c'est les intellectuels.
Ah, mais c'est les intellos, c'est l'Alliance française, il ne faut pas quand même.
Eh oui.
Deux subjonctifs imparfaits dans le poème.
Ah bah, ils étaient imposés par les rimes et par Jérôme Clément, hein, je préviens.
Ah, je crois que c'était des passés simples dans les...
Oui, des passés simples.
Ah, c'était passé simple, oui, mais bon.
Il a jamais fait la différence, Jean-Bernard Puy.
Non, non.
Puis à l'oreille,
ça s'entend pas.
Ça se ressemble étrangement.
Ah non.
Non, c'est un poème intéressant.
Mordilla. petite différence. Ah,
oui, oui, mais il y a très peu de gens qui font l'ouverture.
Pas moi, en tout cas.
Il fait plutôt la fermeture, lui.
Bon, vous écrivez des poèmes comme ça, comme s'il en pleuvait. Vous avez une facilité, Jean-Bernard.
Ouais, sans me demander ce que ça va devenir, d'ailleurs, en plus.
Non, non, ce qui est bien, c'est désintéressé pour
complètement.
Vous.
Complètement, hein? Malheureusement.
Mais non, parce que figurez-vous que Jérôme Clément a écrit sur vous.
Non, mais j'ai écrit pour le Courrier de l'Ouest, parce que les lecteurs du Courrier de l'Ouest sont très familiers des poésies de Jean-Bernard Pouy à cause de sa filiation avec Joachim du Bellay. La qualité de la langue utilisée rattache Jean-Bernard Pouy au grand poète de la vallée de la Loire.
Vous lui avez donné combien, là?
Deux barriques de...
C'est Pouy fumé.
Mais justement, on pourrait s'étonner que ce poème centré sur Don Quichotte et l'histoire de Dulcinée figurent dans le célèbre recueil de poésie de Jean-Bernard Pouy intitulé « Alliance française ». Rien, en effet, ne le rattache aux autres poésies de ce recueil, qui toutes sont marquées par des références à la langue de Molière et non à celle de Cervantes. Ceci étant, même si cette œuvre détonne par comparaison, il faut la lire pour ce qu'elle est, un poème de Jean-Bernard Pouy. Ce poème s'éloigne beaucoup de son inspirateur par des rimes surprenantes. Giroufard est d'une audace inouïe quand on connaît son œuvre. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'il utilise ce terme. Même dans « Moiteur d'été », son poème le plus connu, qui a été mis en chanson et en musique par Jacques Brel, il ne s'autorisait pas cette liberté dans l'anachronisme. Est-ce une révolution de sa pensée? Tout comme l'apparition de Depardieu, dans un rapprochement saisissant avec Dulcinée. Mais l'on sait que Jean-Bernard Pouy est un fervent cinéphile, et il faut voir dans l'irruption de l'acteur si connu un clin d'œil au talent multiforme de Depardieu, qui précisément a tout joué, tous les rôles, sauf celui de Don Quichotte. Il faut dire qu'on le voit difficilement joncher sur Rocinante. Heureusement, le poète revient à ses amours premières. Chacun connaît sa passion pour Paul Morand, sur lequel il a écrit de nombreux essais, et qu'il considère comme l'un des plus grands écrivains français du siècle. C'est finalement ce rappel, avec ce vers sublime placé dans la bouche de Morand, « Je ne sais quoi répondre », qui nous fait retrouver le vrai Jean-Bernard Pouy, ce poète exalté et mystérieux, qui nous livre ici un texte inattendu et qui justifie son dernier mot, sa dernière phrase, « Ce style est une piqûre ». Avis au lecteur, laissez-vous piquer par Jean-Bernard Pouy.
Oh, c'est bien, on achète là. Oh, ouais. Moi, j'aimerais bien découvrir Moiteur d'été.
Oui, je viens d'apprendre que ça a été adapté par Jean-Brel. Et alors, les droits d'auteur, zéro. Alors donc, je vais commencer à me renseigner, parce que là, ça doit être quand même...
Ah oui, il y a du rattrapage.
Payer la retraite. Hein,
oui. Moi, j'aurais entendu aspirateur et pas inspirateur. Je me disais, c'est quand même bizarre pour un poème de Dubalet.
Bon, on a un très intéressant poème, celui de Jean-Bernard Pouy. Alors vous... Eva, vous étiez dérangée par la piqûre et attirée par qui? Par Depardieu?
Alors non, étrangement, le cormoran est devenu le héros et reléguant Paul Morand et Depardieu au rôle de figurant.
Ah bon?
Ouais.
Oui.
Et je ne m'attendais pas à ça moi-même.
Non, non, non.
Du coup, le recueil s'appelle Vers, V-E-R-S, et puis après V-E-R-T-S. Donc, c'est de couleur verte.
Oui, des verts. Ah,
verts, verts. Et le poème s'appelle L'école écolo. L'école écolo.
Ah oui, tout ça est très allitératif, c'est joli. Oui.
Après, ce sera fini et c'est vaguement des octosyllabes.
Comment ça, vaguement?
Le soleil au lac dit adieu. Où va nicher le cormoran, entre les lignes de Paul Morand ou dans les vignes de Depardieu, de longues heures durant déblayer, bâtir, colmater, crapahuter, les rivaux, les proies charcuter, pour enfin peut-être festoyer, de mouches, de moustiques, de cafards, l'oiseau avala le cocktail, sa patte raide comme une attelle, l'œil étincelle en gyrophare. Niché, déniché, dulciné, fouet sérénade, il gazouilla, de belles brindilles, il mordilla, black is black, sa plume calcinée. Hic et nunc, ou à Mexico, recevez de grâce cette piqûre de rappel, nul n'oppose culture et nature, elles sont ex aequo.
C'est très très joli, très différent, comme quoi avec les mêmes mots on peut écrire des histoires.
Mais je suis extrêmement différent de vous.
Oui, en quoi finalement?
J'aime juger. J'aime...
Non, mais avec elle on est dans la nature, avec vous on est dans la pensée intellectuelle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Vous voulez dire que j'ai une cervelle d'oiseau?
Moins de 1% d'ADN en commun, ça se voit. Ouais.
Jacques Jouet. Je crois que vous êtes critique à vos heures. Hein?
Non, je ne suis pas critique. Non, je suis bénévole, vous savez, rédacteur bénévole du petit journal de la Biocop de la rue Breguet.
Ah, d'accord. Et mais, donc, vous avez
mais oui, mais c'est
découvert...
extraordinaire parce que notre journal s'appelle Vert. Ça ne s'écrit pas tout à fait pareil, mais...
Oui, elle vous a tout
pris. Et voyant ce livre à l'étalage, je me suis dit, je vais en parler dans notre petit journal. Mmh. Voilà. Donc je précise que c'est une heureuse coïncidence que la librairie nous donne à leur étalage un recueil de poèmes intitulé « Vert, vert, comme notre feuille de chou à nous ». Ces poèmes, je les ai lus. Et je les ai trouvés bien bio, comme disait ma grand-mère du Morvan. Ils sont frais, ils sont de saison. Vous remarquerez, si vous lisez ces poèmes comme je les ai lus, qu'ils sont envahis d'insectes, signe que l'auteur n'emploie jamais de pesticides. Je cite « Deux mouches, deux moustiques, deux cafards, l'oiseau avala le cocktail ». Très joli. De nos jours, ça fait plaisir. Et il y a bien d'autres animaux sauvages en liberté dans ces poèmes. Des cormorants, des deux pardieux de pré salé, des polmorants fermiers. Alors, inexplicablement, un produit manque, le lait de soja. Je n'ai pas trouvé de lait de soja dans ces poèmes.
Vous en avez en promotion à la boutique, c'est ça?
À côté cave, la vinification des poèmes est sans sulfite ajouté. Ça se sent très bien sous la dent quand vous les prononcez. J'ai essayé. Il y a parfois de grands pontes qui sont évoqués. Ici, Dulcinée, la Mordilla, de grands personnages. Ce sont certes des huiles, mais des huiles essentielles. De tout ça, alors, il suffit de citer. Eva Almassi le dit mieux que moi à la fin de son poème, je n'invente rien. Le poème intitulé « L'école écolo ». Nul n'oppose culture et nature, elles sont ex aequo. C'est magnifique, vous avez écrit ça pour nous.
Dans sa critique, de manière sous-jacente, il y a un peu de gluten. À mon avis, ça va lui faire du mal.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin et Pierrick Charles a podcasté sur franceculture.fr pendant un an. Alors si vous voulez jouer au bourrimé, c'est à la rubrique commentaires de la page vie du Club des Papous qu'il vous faudra poster vos histoires. Les infos sur notre rendez-vous public au Studio 105 vendredi 30 septembre sont également à la page vie du Club et sur notre page Facebook. On se retrouve dimanche à 12h50 pour de nouvelles aventures ludiques et papou, juste après Candidat de Prieur de la Marne. Au revoir, passez un bel après-midi en très bonne compagnie sur France Culture. Je...